Au quotidien, avec Hélène Denis.
Rituel de la gorgée d'eau avant d'entrer en onde. Bonjour et bon lundi 16 juin 2025, lendemain de la fête des Pères. J'espère que tout s'est bien passé pour vous. Bonjour Mathieu.
C'était hier.
Oui, vous êtes allé faire un tour à Québec, vous?
Oui.
Et puis?
C'était magnifique.
Oui, hein, il a fait beau partout. Et vous avez un beau teint, vous, Louis.
Merci.
Ben, bonjour, Mathieu, Hélène. Également, là, mais on sent qu'il y a un petit peu un coup de soleil, là.
Oui, il y a eu un peu de vélo samedi et le soleil tapait bien, donc.
Oui, mais vous êtes protégé quand même.
Oui, pour le visage
ouais,
et les bras, oui, les cuisses, on repassera. Oui,
il faut en mettre partout, partout. Alors, Louis, bien, pendant que vous avez le micro, racontez-nous vos sujets du jour. Vous allez nous transporter en Chine, notamment.
Oui, en Chine. Je vais vous parler de logement. C'est la saison, hein, le 1er juillet approche. En Chine, une histoire de logement pas banale. Dans un village, une station touristique devait se construire. Le village a donc été vidé. Et bien, il y a eu un habitant qui a défié les autorités, qui a bâti une tour. C'est une histoire assez poétique même, vous allez voir, d'un homme qui s'érige face aux autorités. Et puis, une autre histoire de logement en Allemagne. Cette fois-ci, ça c'est peut-être le logement rêvé. Il n'y a pas d'augmentation de loyer dans une résidence. Ça fait 500 ans qu'il n'y a pas d'augmentation de loyer.
Pardon.
Je vous expliquerai cette résidence. Danse un peu particulière, mais oui, il paye un peu moins d'un euro par an, ces locataires-là.
Ah, bien, on a hâte d'en savoir davantage. Ça n'a pas de bon sens, mais en même temps, ça se peut, paraît-il? C'est de l'insolite réel.
Exactement.
Oui, oui. Et vous avez parlé de rêves, de déménagement, et ce sont les sujets de Daniel Rioux. Bonjour, Daniel.
Bonjour. Bonjour tout le monde.
Daniel qui m'a envoyé une belle photo de son, sa cour fleurie, plein de pots de couleurs, de fleurs.
Ah, oui. Ah, c'est tellement agréable. C'est, j'appelle ça mon petit salon d'été, hein. Puis c'est l'occasion pour tout le monde de s'en créer un petit salon à sa manière.
Un salon d'été, c'est charmant.
Oui, un petit salon d'été pour y lire puis rêver. Alors, c'est le sujet ce matin. Si nos rêves, est-ce qu'ils peuvent influencer nos nuits? Puis à travers nos rêves, il semblerait qu'on peut mieux se comprendre. Alors, c'est mon premier sujet. Et Louis parlait de qu'il n'y avait pas d'augmentation de loyer depuis 500 ans.
Ouais.
Ben ici, il y en a, puis ça amène des déménagements. Mais il y a des gens aussi, je vais vous faire découvrir des gens qui aiment déménager. Pour quelles raisons ils aiment tant déménager?
Ah, oh, bien. C'est quand même étonnant. Mais c'est vrai, hein, il y en a qui ont la passion de faire des boîtes. J'en connais pas trop, là. Mais aussi, quand on s'en va vers un ailleurs meilleur, c'est encourageant. Sauf qu'il y en a qui ont beaucoup de difficultés à trouver un logement, ne serait-ce qu'un endroit où habiter. Alors, merci d'être là. Et on aura aussi la chronique musique classique avec Chantal Lavoie qui va nous faire, elle aussi, rêver avec notamment la très belle voix d'Élisabeth Saint-Gelais qui participe à plein de festivals pendant l'été, notamment celui du Festival de musique de chambre. Là-dessus, on y va avec un grand succès, c'est Jane et Makeba. Bon lundi.
Human rights. Ooh, makeba, makeba, makeba. La chanson Makeba de Jane.
Et je commence avec une nouvelle très inquiétante. C'est une disparition d'une toute petite fille. Des recherches intensives sont menées lundi, aujourd'hui, donc, dans l'arrondissement montréalais de La Salle, à Coteau-du-Lac et en Ontario, pour retrouver Claire Bell, la fillette de 3 ans disparue depuis samedi à 11 heures. Sa disparition n'a pas déclenché d'alerte Amber, explique le sergent Jean-Raphaël Drolette de la Sûreté du Québec, parce qu'on n'a pas d'éléments permettant de croire pour l'instant qu'il y ait eu enlèvement, explique-t-il. La Sûreté du Québec a installé un poste de commandement mobile près du commerce à Coteau-du-Lac où un adulte s'est présenté vers 15h30 dimanche, affirmant avoir perdu l'enfant et ignorer où elle se trouve. Des recherches sont également menées boulevard Newman dans l'arrondissement de La Salle, près de l'endroit où la fillette a été vue pour la dernière fois. Quant aux recherches en Ontario, elles s'expliquent par le fait que Coteau-du-Lac est à proximité de la frontière Québec-Ontario. Il y avait certaines informations à corroborer, explique le sergent Drolette. Claire Bell a les cheveux bruns et les yeux bruns. Elle mesure 0,90 mètres. C'est ça? Non, c'est écrit mètre. Alors, elle est toute petite, elle a 3 ans, et pèse 35 livres. La SQ sollicite de l'aide du public et encourage les résidents à chercher aux alentours des lieux où la fillette a été vue. Ce qu'on demande aux gens, c'est de partager le plus possible les publications des médias sociaux pour que la figure de l'enfant soit épinglée partout, puisqu'il y ait des vérifications qui se fassent par les citoyens aux alentours sur leur terrain, leur dépendance pour voir s'il n'y a pas des choses anormales. L'Association québécoise des bénévoles en recherche et sauvetage a annoncé ce matin sur son compte Facebook que certains de ses membres ont été déployés à Coteau-du-Lac afin de prêter main forte aux policiers. Cette disparition demeure toutefois nébuleuse. On ignore, par exemple, quel était le lien de l'adulte avec la fillette dont il a annoncé la disparition à Coteau-du-Lac dimanche. Et qui est interrogé par les policiers depuis ce signalement. La SQ n'a pas précisé s'il s'agissait d'un homme ou d'une femme. Quant à l'explication du fait qu'on cherche à Coteau-du-Lac, près d'un commerce, une fillette vue pour la dernière fois à La Salle, elle demeure mystérieuse. Il y a un travail d'enquête, mais encore là, actuellement, le portrait n'est pas clair, indique le porte-parole de la SQ. Évidemment qu'on souhaite vivement que la fillette soit retrouvée saine et sauve. À la une du Journal de Montréal, triste histoire Après 3 demandes d'aide médicale à mourir refusées, il n'en pouvait plus de souffrir. C'est un homme tout jeune, un Montréalais de 43 ans, qui vivait avec des souffrances insupportables depuis 20 ans. Il a mis fin à ses jours après s'être fait refuser l'aide médicale à mourir. Il était plus qu'exténué, il était à bout, confie son frère Pierre-Olivier Bertillon, de 45 ans. J'ai été aux premières loges des non-soins que Vincent a reçues. L'histoire de cet ancien enseignant de théâtre est infiniment triste. Après une blessure au dos en 2004, la douleur avait dégénéré. Devenu invalide, Vincent Bertillon disait vivre avec un syndrome de douleur chronique. Les critères pour recevoir l'aide médicale à mourir, être majeur et mentalement apte, avoir un problème de santé grave et incurable, ressentir des souffrances physiques ou psychologiques existentielles intolérables selon l'appréciation personnelle de la personne, donner un consentement éclairé. Alors, puisqu'on parle de suicide, si vous avez besoin d'aide, ici, j'ai un numéro de la ligne québécoise de prévention du suicide qu'on nous donne dans le journal. 1-866-APPEL, 1-866-277-3553. Vous pouvez aussi appeler à Jeunesse J'écoute, 1-800-668-6868. 1-800-668-6868 et tel jeune, 1-800-263-2266, tel jeune, 1-800-263-2266. Et puis, la une du devoir d'aujourd'hui, Trump en Inde et Iran au menu du G7. C'est Boris Prou qui nous en parle. D'ailleurs, demain, on aura une chronique de François Larochelle qui nous parlera du G7 qui se déroule à partir d'aujourd'hui du côté de l'Alberta. Cinéma, derrière le volant avec Brad, le réalisateur et le producteur de Top Gun Maverick, parle de F1, leur nouveau film où Brad Pitt incarne un pilote de course. Le film F1 prend l'affiche le 27 juin et Formule 1 qui s'est passé en fin de semaine à Montréal, c'est George Russell qui a remporté le Grand Prix du Canada qui s'est déroulé de façon tout à fait parfaite. Il a fait un temps splendide, contrairement à l'année passée où c'était le déluge et où il y avait eu plein d'accros. Et puis, je termine avec la une de la Presse Plus, les modulaires au secours des hôpitaux, point d'interrogation, les installations de l'Institut Hôpital Neurologique de Montréal date d'une autre époque et l'établissement réclame de Québec un bâtiment modulaire destiné aux patients hospitalisés. D'autres hôpitaux en ont érigé. Une solution d'avenir? Point d'interrogation. En tout cas, c'est une solution qui peut faire l'affaire de bien des gens, autant le personnel que les patients, aux prises avec des installations désuètes. Donc, les installations modulaires, c'est une alternative qui fait l'affaire des gens, mais il faudrait que ça soit temporaire.
Seul dans l'univers, j'ai peur du ciel et de l'hiver, j'ai peur des fous et de la guerre, j'ai peur du temps qui passe. Dit comment peut-on vivre aujourd'hui dans la fureur et dans le bruit, je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdu. Cet amour que l'on m'a chanté, ce sauveur de l'humanité, je n'en vois pas la trace. Dit comment peut-on vivre sans lui, sous quelle étoile, dans quel pays, je n'y crois pas, je n'y crois plus, je suis perdu. Fais comme des marchands de liberté, d'écouter se lamenter ma gueule dans la glace. Est-ce que je dois montrer les dents? Est-ce que je dois baisser les bras? Je ne sais plus, je ne sais pas, je suis perdu.
Difficile de ne pas chanter avec Michel Fugain, sa chanson « Fait comme l'oiseau ».
Et de rêver d'en être un, oiseau. On parle de rêve avec vous, Daniel Rioux.
Oui, de rêve. Et comment les rêves peuvent influencer nos nuits et comment nos rêves peuvent mieux nous apprendre à nous comprendre. Et c'est Rose-Aimée Autonne-Témorin qui a publié cette chronique dans la presse du 1er juin. Alors, elle pose la question, en quoi les films d'action, les séries tendres ou les vidéos de chats qu'on regarde avant de s'endormir influencent-ils nos rêves? C'est ce que le chercheur Anthony Levasseur entend découvrir. Et l'entrevue qu'Anthony Levasseur lui a accordée a commencé de façon anodine. Rose-Aimée lui a demandé ce qui l'a mené là où il est aujourd'hui, soit chercheur au laboratoire d'ingénierie des rêves de l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. Et sa réponse, elle n'avait... rien de banal. Il a répondu en disant, j'ai fait un bac en neurosciences cognitives durant lequel j'ai appris à quel point la psyché humaine est en contrôle de nos perceptions. C'est donc crucial de comprendre comment elle fonctionne si on veut guérir nos maux, M-A-U-X, et nos souffrances. Les rêves viennent en quelque sorte exposer la partie subconsciente de notre psyché à la conscience, et à travers eux, on est capable de mieux se comprendre. Alors, Rose-Aimée tenait vraiment à rencontrer Anthony Levasseur, parce que justement, il s'apprête à mener une recherche sur la manière dont les médias numériques influencent nos rêves. En toute franchise, Rose-Aimée s'attendait à se faire dire qu'il faut éviter les écrans avant dodo si on veut optimiser la qualité de notre sommeil. Elle a avoué aussi dans l'article que l'étudiant au doctorat en psychiatrie et addictologie à l'Université de Montréal s'éloignait pas mal du discours qu'elle avait en tête avec ses considérations philosophiques. D'ailleurs, elle a été surprise et surtout charmée. De toute façon, cette idée voulant qu'il vaille mieux fuir les écrans avant le coucher n'est pas entièrement justifiée. C'est ce qu'elle a appris d'Anthony Levasseur. La grande majorité des études sur le sujet ont été faites auprès de mineurs, alors que les enfants et les adolescents n'ont pas nécessairement le même rapport aux médias numériques que les adultes, qu'ils ont une sensibilité psychologique qui est différente et un sommeil qui se compare pas mal au nôtre.
Qui se comparent pas mal ou qui se comparent mal?
Non, plutôt qui se comparent mal au nôtre. Ouais. C'est différent. Alors, deuxième souci, la plupart des études reposent sur des données auto-rapportées. Les quelques études expérimentales qui ont été faites sur le sujet sont super hétérogènes, même que la plupart montrent que les médias numériques n'ont pas d'effet ou qu'ils ont des effets positifs sur le sommeil. Alors, c'est ce qu'a résumé Anthony Levasseur, tandis que Rose-Aimée, elle tombait de sa chaise.
Nous aussi, d'ailleurs.
Oui. Donc, l'hypothèse d'Anthony Levasseur, c'est que ce n'est pas nécessairement l'utilisation des médias numériques qui impacte le sommeil, mais plutôt les propriétés du contenu que l'on consomme. Je vous rappelle qu'il est chercheur au laboratoire justement d'ingénierie des rêves et c'est à l'hôpital du Sacré-Cœur qu'il y travaille. Rose-Aimée s'interroge et elle dit, la lumière bleue, ouais, sur nos écrans, hein? Alors, Anthony Levasseur, qui semble taquin, il a souri tendrement en l'entendant un peu comme le ferait un parent devant son enfant qui vient de poser une question dont la réponse est évidente. Ce n'est pas le fait de s'exposer à la lumière bleue avant le sommeil qui fait qu'on a un mauvais sommeil, c'est plutôt notre historique lumineux qui l'affecte. Notre sensibilité à la lumière avant de nous coucher est influencée par le degré auquel on y a été exposé durant la journée. Il donne un exemple. Si on a passé notre journée à l'intérieur, dans le noir, on va être stimulé par la lumière de l'écran et la mélatonine, c'est-à-dire l'hormone de la somnolence, ne sera pas sécrétée. Donc, ce qui est important, c'est de bien s'exposer à la lumière durant la journée, non pas nécessairement d'éviter la lumière le soir. Rosemée avoue que je vais me coucher moins niaiseuse et avec un super historique lumineux ce soir. Revenons maintenant au projet doctoral. Elle revient aux moutons, elle revient au projet doctoral pensé par le membre de la Société canadienne du sommeil pour combler certaines lacunes dans la littérature scientifique. D'ailleurs, dans les prochains mois, Anthony Levasseur va tester l'impact de différents films sur le sommeil et les rêves en utilisant un protocole récemment qui a été développé au MIT nommé Incubation ciblée des rêves. Comme elle mentionne dans son article, on dirait que j'écris de la science-fiction. Mais concrètement, Anthony Levasseur demandera aux participants de choisir entre un film qu'ils jugent positif et un autre film qu'ils estiment négatif et de le regarder avant de s'endormir. Quand ils seront sur le point de tomber dans les bras de Morphée, les participants seront exposés à un élément rappelant l'œuvre. Ils pourraient, par exemple, entendre la bande sonore. L'expérience se répétera aussi dans différents stades de sommeil. Puis, les cobayes se feront réveiller 3 minutes plus tard pour livrer leur rapport de rêve. Comme elle mentionne, Rosemée, j'adore le vocabulaire de ce champ de recherche, un beau rapport sur les rêves. Leurs propos seront ensuite analysés par une équipe spécialisée en études cinématographiques qui pourra déterminer si les mots, les mouvements de caméra et les concepts du film ont été ravivés dans les rêves des participants. Pour Anthony Levasseur, c'est d'abord un projet important pour des questions d'hygiène de sommeil. Pour définir d'ailleurs de bonnes habitudes, il faut savoir si on doit éviter ou favoriser certains types de contenus avant le dodo. Or, si tout un chacun savait comment influencer ses rêves, on pourrait aussi parler d'un véritable potentiel thérapeutique. Il y a toute une science des rêves qui s'intéresse à la manière dont ils peuvent nous guérir de certains maux. Par exemple, une des utilisations les plus reconnues, c'est pour aider les gens avec un trouble de stress post-dramatique, suite à un drame, un trouble de stress post-traumatique qui compose avec des cauchemars récurrents. Il y a des manières d'utiliser la science pour briser ces cauchemars-là. Et bien sûr, il y a les rêves tellement positifs qu'ils favorisent une bonne humeur au matin.
Oui, on ne voudrait pas que ça finisse quand c'est positif.
Un beau rêve, c'est agréable. Les cauchemars sont vivres quand même. Puis Anthony Levasseur estime que nos rêves peuvent nous révéler certaines choses sur nous, qu'ils peuvent nous guérir, nourrir aussi notre créativité et changer notre humeur. Pour lui, on a la possibilité de les influencer, alors ça semble nous appartenir. Il s'agit maintenant de prendre conscience de notre pouvoir, du laboratoire jusqu'à la chambre à coucher. Alors, pour les gens qui auraient envie d'en savoir plus sur la relation entre les médias numériques, les rêves et le sommeil, M. Anthony Levasseur va aborder le sujet lors d'un événement grand public. C'est le rêve comme miroir de la vie et ça aura lieu le 16 août prochain à 10h et je vous dis à quel endroit. Je vous rappelle le titre de la conférence, « Le rêve comme miroir de la vie ». Ça aura lieu au Centre Saint-Pierre, qui est situé au 1212 Panay à Montréal, et c'est le 16 août prochain à 10h le matin. Ce serait possible, il faut s'inscrire à la rencontre. Donc, il y a un numéro de téléphone ici, le 514, le 524-3561. Alors, je répète, le Centre Saint-Pierre, pour vous inscrire, le 514-524-3561. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans l'article, Rosemée nous mentionne, entre autres, la Société canadienne du sommeil. Alors, j'ai fait une petite recherche pour aller voir. Parce que si vous n'allez pas à la rencontre, vous pouvez au moins vous intéresser peut-être à certains aspects du sommeil. Et j'ai découvert qu'on y traite de plusieurs sujets, dont le bruxisme du sommeil.
Ah c'est oui, hein? Hein, les gens grincer des dents, là? Oui. Grincher ou grincer? Non, grincer.
Grincher, hein?
Oui.
Grincher des dents.
Ou gricher des... Ah non, pas gricher, on se griche les cheveux. Grincer des dents.
Grincer des dents. Et puis, il y a aussi, quand on devient parent, ben, à un moment donné, on manque de sommeil. Hein? Fait que ça joue sur les humeurs, sur nos relations, sur la relation de couple avec l'entourage et tout. Donc, c'est très intéressant. J'ai regardé vitement les articles. Et encore sur le sommeil, il y a aussi les vérités, les fausses croyances, c'est l'histoire qu'on se raconte.
Oui, oui.
Donc, d'ailleurs, je pourrais en faire un sujet de chronique, prendre un sujet, puis y aller, puis en parler. Il y a 10 conseils aussi dans ce site qui sont simples pour bien dormir. Puis aussi, ben, on a toujours cette zone de mystère autour du sommeil d'un bébé. Alors, le sommeil de votre bébé, comment, c'est quoi son sommeil, lui, à cet enfant-là?
Dormir comme un bébé, c'est un...
Ah, dormir comme un bébé, mais il y a des bébés qui sont pas
si
mal
bien.
La nuit aussi. Et est-ce que sommeil aussi, quand on cause avec des gens, on pose la question, sommes-nous tous logés à la même enseigne? Donc, vous pouvez aller dans Google, Société canadienne du sommeil, et en découvrir davantage.
Merci beaucoup, Daniel, pour tout ça. Et puis, on va s'arrêter le temps d'une petite pause musicale qui va nous mettre de bonne humeur. On l'était déjà, j'espère bien, en tout cas pour tous ceux et celles qui sont à l'écoute. Et puis après, bien, il y aura Louis dans sa chronique insolite. Mais Daniel, vous avez un autre sujet qui concerne cette fois-ci. On vient sur le plancher des vaches avec le déménagement. Merci.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Je suis fatiguée, j'en ai eu assez. J'aime
C'est Taking Care et sa chanson Meubles Ikea.
Bien oui, en lien avec votre sujet, le bonheur de déménager ou le bonheur de monter des meubles Ikea.
Je suis pas sûre que monter des... C'est peut-être plus agréable de déménager que je pense pour certains que de monter des meubles Ikea. Mais c'est la question que pose Maud Goyer, c'est ça, dans la presse du 6 juin. C'est qui a dit que déménager était pénible, fastidieux et lourd? Donc, faire des boîtes avec passion, trier, ranger, nettoyer dans la joie, planifier, organiser le prochain cocon, le sourire aux lèvres et tout ça avec le beau sourire. Qui a dit que déménager était justement lourd, hein? Alors, ici, on parle tout de suite en partant avec Cynthia Houston, qui aime déménager. Oui, ben, en plus, elle aime tellement ça qu'elle le fait 40 fois dans sa vie. Oui.
Quel âge?
Elle a 39 ans. Hey. Fait qu'elle est née, près de Boston, aux États-Unis, et puis elle a déménagé près d'une vingtaine de fois avant ses 18 ans. Elle est habituée donc à être habituée de se faire de nouveaux amis, à découvrir un nouvel environnement, à ouvrir ses horizons, raconte cette dame qui est technologue en radiologie. Elle est aussi mère d'un adolescent. Les nombreux déménagements m'ont appris à m'adapter.
Ah oui.
Et des États-Unis, elle habite maintenant à Sainte-Foy, dans la région de Québec. Elle a l'impression de progresser et de gagner en qualité de vie chaque fois qu'elle déménage. Et aussi, elle avoue qu'elle aime planifier, organiser un déménagement jusque dans les moindres détails.
Elle est maintenant une spécialiste, là.
Bien, je penserais que oui.
40 déménagements.
Oui, écoutez, elle ne mentionne pas vraiment les raisons pour lesquelles elle a déménagé, mais elle a quand même beaucoup déménagé, peut-être avec ses parents à l'époque.
Bien, c'est sûr.
C'est sûr et certain, elle a avant 18 ans, ça se peut pas. Elle aime organiser le rangement et choisir les couleurs, trouver de l'espace où il y a plus de lumière pour ses plantes, visualiser où elle va mettre ses cartes. Elle est une fille de plan. Elle fait un plan à l'échelle de l'espace et elle place tous ses meubles. Donc, elle adore. Il y a une autre personne qui aussi adore déménager, c'est le créateur de contenu, Pierre-Luc Cloutier. Lui aime changer sa routine. Ça le stimule plus que cela ne peut l'angoisser, justement. Il a déménagé 7 fois en 10 ans et puis lui se promène d'un bar à l'autre, hein, du quartier Hochelaga-Maisonneuve au Mexique, en passant par le centre-ville de Montréal et Saint-Lambert. Il aime déménager parce qu'il aime le changement. Il a 30 ans, donc il n'est pas très vieux. Il a posé ses valises à Longueuil il y a de cela 6 mois maintenant. Beaucoup de gens aiment s'ancrer dans les habitudes, mais pour lui, il se tanne vite. Donc, il aime découvrir un nouveau quartier et aller à la rencontre d'un nouveau voisinage. Ben aussi, Pierre-Luc Cloutier, il reconnaît que déménager est un exercice intéressant, entre autres pour élaguer et alléger, se départir de certaines choses. Ça permet aussi de prendre conscience qu'on possède souvent trop d'affaires, trop de bébelles, finalement. Il faut être honnête envers soi-même et envers nos objets. On n'a pas besoin de toutes ces choses. Pierre-Luc est aussi fier de dire que ses possessions tiennent aujourd'hui, après autant de déménagements. Je ne sais pas si vous aviez à déménager, combien de boîtes vous auriez, mais lui, là, aujourd'hui, ses possessions, ça représente une 40aine de boîtes et qu'il met moins de 5 heures à toutes les mettre dans les boîtes.
Ah, donc, mais là, c'est plus motivant de déménager dans ce temps-là. Là. Ben, ça prend pas 3 ans. Enfin, c'est moi.
C'est en plein ça. Puis Cynthia Houston, qui en est à son 40e déménagement, elle partage aussi cet amour du minimalisme. Elle considère que posséder beaucoup de choses n'est pas qu'embarrassant physiquement, mais c'est aussi un poids mental, une charge mentale.
Oui.
Les gens s'encombrent tellement et ça devient lourd. Elle aime posséder moins de choses, mais les choses qu'elle possède sont utiles, fonctionnelles et propres, et c'est pour moi une façon d'être alignée. Il y a aussi la quête, une quête, ce que explique Michel Perron, qui, elle, est enseignante de 51 ans. Elle rêve, quant à elle, à son prochain déménagement. Elle cherche d'ailleurs une grande maison près de Hamilton, en Ontario, pour accueillir ses 2 grandes filles et ses 3 enfants. Et
les trois enfants de son conjoint.
En plein ça, qui sont âgés entre 19 et 23 ans. Alors, il veut beaucoup de chambres, 6 chambres, une énorme salle à manger, une piscine aussi, si c'est possible. Et chaque fois qu'elle déménage, elle vit un désencombrement physique, encore elle, comme les autres. l'autre personne et la charge mentale, elle améliore son sort. Mais améliorer son sort, c'est aussi l'une des premières raisons pour lesquelles on choisit de bouger. C'est ce que souligne Elisabeth Alessio, qui est organisatrice professionnelle qui doit aider des gens à déménager. La quête de mieux-être est centrale dans cette décision. On déménage aussi parce qu'on veut un environnement qui est plus calme, plus lumineux, plus fonctionnel, mieux adapté. On veut aussi plus petit ou plus grand et on veut aussi une transition, on peut vivre une transition de vie, hein, l'arrivée d'un enfant, une séparation, des études à l'extérieur, une retraite, un nouvel emploi. Par contre, elle remarque que les gens qui déménagent tombent parfois dans un piège, c'est que c'est celui de changer d'environnement en pensant que ça va corriger tout le reste, hein, changer le mal de place, là.
La pensée magique.
La pensée magique, on fait peut-être référence à ça. On peut être en quête de renouveau, de redémarrage, mais ça ne veut pas dire qu'on s'attaque toujours à la source du problème. Dans le fait de déménager souvent, madame, elle explique qu'il y a un lâcher-prise et des deuils à faire. Ça demande une grande capacité d'adaptation. Il y a des gens qui ne veulent vraiment pas quitter leur endroit, mais pour ceux qui aiment quitter ou ceux qui doivent quitter, il faut savoir s'adapter, lâcher-prise et faire des deuils à faire en route. Hein. Il y a le stress du déménagement, mais aussi l'excitation, hein, tant qu'être positif, la fébrilité de changer de quartier et de découvrir de nouveaux espaces. Il y a M. Unsal Ozdilek, qui est professeur spécialisé en immobilier à l'École des sciences de la gestion à l'UQAM. Il dit que l'être humain cherche la nouveauté. C'est un peu dans nos gènes. On ne veut pas toujours voir le même voisin, hein, le même chat, le même environnement. On a éventuellement besoin de changer de propriété et de quartier. Et il fait aussi, M. Ozdilek, référence à nos envies ancestrales de conquérir l'espace physique et au fait qu'elles sont encore là aujourd'hui, en contrepoids au numérique qui prend beaucoup de place. Alors, il dit qu'aussi dans le futur, peut-être que la technologie va réduire ce désir de mobilité et peut-être que le numérique va calmer la boucane du déménagement. Déménager n'est pas nécessairement toujours un choix. Hein. On pense aux reprises de logement. Pensons à des gens bientôt là, qui doivent déménager ou à l'augmentation des loyers.
Parce qu'ils sont évincés ou justement parce qu'ils ne sont pas capables de payer l'augmentation.
Oui, puis aussi, ce que j'ai trouvé intéressant dans ces propos, c'est que aimer déménager comme les gens dont je viens de vous parler, ben ça confirme aussi une chose, c'est qu'on est libre et aisé. Il faut avoir les moyens de déménager. Hein.
C'est un privilège, quoi.
Oui, c'est un privilège. Et il remarque aussi qu'on déménage beaucoup au Québec et au Canada. C'est un phénomène qui caractérise la population ici de notre pays. Par contre, Louis parle, il y a des endroits où les gens ne déménagent pas, hein? Qui peuvent être longtemps au même endroit.
Ben oui, parce qu'il n'y a pas d'augmentation pendant 500 ans, donc on va rester là.
Ben, je pense qu'on ferait pareil, hein? Je pense bien qu'on ferait pareil. Donc, pour ceux et celles qui préparent leur boîte pour déménager, ben écoutez, sachez que vous pouvez le faire avec le sourire et dans le bonheur, puis aller vers de nouvelles aventures.
Ah, bien, ça nous donne des ailes, tout ça, là. Vous nous avez quasiment donné le goût de faire des boîtes.
Est-ce que vous en auriez beaucoup, j'imagine, hein?
Oui, oui. Moi, je suis installée depuis quelques années, pour ne pas dire plusieurs années.
Uh-huh.
Alors, il faudrait que j'en fasse. Mais moi, je trouve que c'est l'aspect positif, là, parce que ça nous permet de faire des deuils, puis de devenir un peu plus légère, de faire comme l'oiseau, finalement.
Oui,
parce qu'il y a des choses qui sont là, puis qui servent à rien, des choses qui sont là et qui devraient ne plus servir à rien aussi.
Absolument.
Merci beaucoup, Danielle. À la prochaine.
Ah oui, à la semaine prochaine. Au revoir.
Chose, comme une overdose, mais c'est le bouquet final. Mais c'est le bouquet final. J'avoue, je les ai attendus longtemps, mais les fleurs ne parlent qu'au présent. Les regrets n'aiment pas. Tu peux leur faire dire tout ce que tu veux. Sur la carte qui c'est l'encre bleue, me dis que tu n'aimes que moi. Le rouge et rouge sang. Couleur des amants, mais c'est le bouquet final, final. Fatal, c'est toujours bien de finir en beauté. Y a le nom à perruban satiné, sans vouloir jeter de fleurs.
à mes sentiments tant j'aime t'aimer et mon envie de te serrer, serrer. Tout y aime plus le cœur. T'aimerais changer les choses comme on change l'eau des roses. Mon amour oublie ça, les fleurs ne trichent pas. Pas les choses à moitié, sans vouloir jeter des fleurs. Y'a comme une envie de te pardonner, de me faire pour toi belle à crever. Tout y aimait plus le cœur. T'aimerais changer les choses, comme on change l'eau des roses. Mon amour oublie ça, les fleurs ne trichent pas.
Bouquet final, une chanson de Vanessa Paradis.
Oui, premier extrait d'un album à venir de Vanessa Paradis. La sortie est prévue le 25 octobre. C'est la chronique insolite en compagnie de Louis de Bernis. Louis, vous commencez par une nouvelle qui s'est déroulée en Chine.
Oui, une nouvelle insolite et aussi un peu poétique. Je vais essayer de vous faire rêver un peu. Et si vous voulez aller voir des photos de ce que je vais vous raconter, on comprend mieux aussi ce dont je vais vous parler. Mais oui, c'est l'histoire d'un homme qui s'est érigé face aux autorités, face à l'envie des autorités de construire une cité balnéaire sur son village, dans sa campagne, et il a résisté. Sa construction maintenant trône au milieu des décombres de maisons démolies, celles de son village. La tour instable de Chen Tiangmin, c'est son nom, est faite de planches, de contreplaqués, de poutres tordues, et elle symbolise l'obstination d'un seul homme. Les autorités, en effet, de la région, la province du Guizhou, c'est dans le sud-ouest de la Chine, en 2018, avaient formulé un projet touristique dans cette région, connue notamment pour ses rizières spectaculaires, ses paysages montagneux. Ils avaient pour projet de construire une grande cité, une cité touristique. Mais Chen Tianming, 42 ans, a refusé de partir. Aujourd'hui, il règne sur cette tour qui compte 10 niveaux, hein, c'est un véritable... Oui, une vraie construction, mais qui est faite d'escaliers vacillants, de balcons plus ou moins droits, d'extensions farfelues. Ça n'est pas,
on ne peut pas l'habiter, on ne peut pas la grimper.
On peut la grimper, mais c'est assez risques et périls. Ouais. Dans les médias chinois, l'édifice est comparé à ceux notamment de l'univers fantastique du réalisateur japonais de films d'animation Hayao Miyazaki. Il raconte « J'ai commencé à construire par nécessité en essayant de rénover et agrandir notre maison tout simplement, mais c'est devenu ensuite une passion, un passe-temps que j'apprécie. Les étages supérieurs donc où il dort tanguent au gré du vent et des dizaines de cordes et de câbles maintiennent la maison ancrée au sol, donnant le sentiment que l'ensemble peut un peu s'envoler à tout moment. »
Pas nécessairement beau, là, je suis en train de la regarder.
C'est plus beau de nuit, effectivement. Quand de jour, c'était un peu un bric-à-brac, de choses. Mais la nuit, quand il y a les lampions et les lumières, c'est plus poétique.
On dirait un sapin de Noël, j'imagine, la nuit, parce que c'est fait hein, en forme de tour, là, comme une tour Eiffel, un peu.
Pour que ça tienne, oui, les 10 étages.
Ouais.
Quand je suis là-haut, dit-il, j'ai l'impression d'être un nomade. Il regarde de loin les immeubles des villes lointaines, l'aéroport, mais surtout les montagnes et la nature. Les gens disent souvent que c'est dangereux, qu'il faudrait démolir, mais je ne laisserai jamais personne la détruire. Tout ça remonte en effet, oui, à 2018. Les autorités locales avaient le projet de construire une grande station touristique de plus de 300 hectares, dont un théâtre, un lac artificiel, en lieu et place du village de Chen Tianming. Mais ses parents ont refusé alors à l'époque l'indemnisation proposée et il a juré de les aider à protéger la maison que son grand-père avait bâtie dans les années 80. Même lorsque tous ses voisins ont déménagé et que leurs habitations ont été détruites, il est resté en place, allant jusqu'à dormir seul dans sa maison pendant 2 mois, au cas où les promoteurs viendraient la démolir pendant la nuit, dit-il.
Oh, quelle vie quand même!
6 mois plus tard, comme beaucoup de projets de développement mal pensés et mal financés dans cette province surendettée, le plan de station touristique a été complètement abandonné. Seul ou presque, dans le village en ruine, Chen Tianmin loge dans cette maison-clou, comme ça s'appelle. C'est un terme qui désigne en chinois les habitations dont les propriétaires refusent de déménager malgré les ordres de démolition et d'éviction.
Maison-clou.
Maison-clou.
Et non maison-close.
Non, maison-clou. C'est une conséquence de l'urbanisation rapide du pays et des lois incomplètes sur la propriété privée. Les maisons-clous font régulièrement la une lorsqu'elles parviennent à retarder ou faire modifier d'importants projets immobiliers. On en voit parfois des photos, notamment il y en avait une assez connue où l'autoroute passait autour d'une maison complètement
oui.
encerclée d'autoroute.
La
pauvre. Voilà, pour lui, l'histoire pourrait mieux se terminer. Je vous épargne toutes les procédures contre lesquelles il a dû se battre. Il a quand même dépensé de l'argent aussi dans tout ça, plusieurs milliers de dollars canadiens. Mais aujourd'hui, il est plus apaisé, il est moins inquiet. Et maintenant qu'il n'y a plus de projet de développement, je pense qu'ils n'ont plus de raison de démolir et je dors mieux. Ironie du sort, la demeure insolite de Chen Tianming a commencé à attirer régulièrement des curieux ces dernières années.
Ah oui, la maison clou.
Exactement.
Fait courir les foules.
Sur les réseaux sociaux chinois, des internautes la qualifient de maison clou la plus étrange de Chine. Et ils la comparent aux constructions fantastiques des films d'animation du studio japonais Ghibli, comme le château ambulant ou le voyage de Chihiro, où on voit un peu des mondes comme ça fantastiques.
On dirait que c'est fait avec des bâtons de popsicle. Et les petites cabanes rouillées un peu. Là.
Exactement. À la tombée de la nuit, donc, c'est peut-être là que se trouve la poésie. La tour est illuminée par des lanternes et offre un spectacle assez poétique, unique pour les promeneurs qui passent par là. C'est magnifique, confie par exemple une habitante de la région en prenant régulièrement des photos. S'il n'y a pas de problème de sécurité, ça pourrait devenir un véritable site emblématique de la région. Cette maison réveille en nous et en de nombreux visiteurs des souvenirs, des rêves d'enfants les plus extravagants.
Ouais.
Les gens rêvent de construire eux-mêmes leur propre maison, leur cabane dans les arbres, mais rares sont ceux qui y parviennent. Chen Tianming, lui, peut le dire. Moi, je ne l'ai pas seulement rêvé, je l'ai fait.
Une histoire qui relève de la fable.
Exactement.
Mais c'est réel, poétique comme vous le disiez si bien, en plus d'être insolite, Louis. Allemagne maintenant, un loyer pas cher, pas cher.
Pas cher, pas cher, et depuis très longtemps. Les loyers pratiqués par la résidence Fugerei à Augsbourg, près de Munich, c'est là que je vous emmène. L'Allemagne, comme beaucoup de pays en Europe, ici aussi, c'est un sujet de société, la pression immobilière, les constructions, ça revient dans l'actualité récemment. L'Allemagne, oui, est en proie à des difficultés. Et les foyers modestes sont les plus durement touchés, comme ça arrive souvent. Le pays manque cruellement d'appartements, de maisons à prix abordable. Conséquence, le marché de la location se tend, les loyers grimpent. On connaît assez bien toutes ces problématiques. Dans ce contexte tendu, la résidence Fugerei à Augsbourg, près de Munich, donc, fait figure d'anomalie statistique. Elle propose en effet 142 logements à la location sur un terrain de 15 000 m2, avec une particularité notable. Le concept d'inflation lui est étranger. Les loyers n'ont pas évolué depuis sa construction en 1521. À l'époque,
évoluer dans le sens d'augmenter.
Augmenter, oui. À l'époque, Jacob Fugger, un riche commerçant bavarois, avait construit ce complexe de logements pour héberger décemment les ouvriers qui travaillaient dans ses usines. Il venait, sans le savoir, de lancer le concept de logement social. La résidence a survécu à son bâtisseur, traversé les siècles. Nous sommes 500 ans plus tard. Le complexe Fugerei est définitivement un lieu à part. Il se décline donc en 142 appartements d'une surface moyenne de 60 mètres carrés. Est proposé au tarif qui était déjà en vigueur au XVIe siècle, soit seulement 0,88 euros par an, même pas par mois. On parle ici donc à peu près de 1,30 $ par an.
Alors, j'imagine que, contrairement à ce que racontait Daniel, des gens qui adorent déménager, même si on adore déménager, mais là, on n'a pas vraiment envie, étant donné que c'est presque gratuit, habiter... là-bas.
Exactement. Et ça se mérite. Il y a quand même des conditions à remplir. Hein. Cet hébergement quasi gratuit n'est pas accessible à tout le monde. Il faut postuler à ce logement et les critères sont assez stricts.
Il doit y avoir une liste d'attente.
Oui, sûrement. Il faut être issu de la communauté locale, être augsbourgeois et en précarité financière aussi. Hein.
Ouais.
Il faut prouver
qu'on
est dans le besoin. La liste des exigences comprend également de respecter un règlement intérieur qui prévoit notamment un couvre-feu à 22 heures, pas de déplacement après.
Ah.
En cas de manquement, de violation de l'horaire, une pénalité de 0,50 centimes s'applique. C'est très strict. On a gardé le règlement de l'époque. Et également, on demande en guise de pénalité des prières quotidiennes en l'honneur des actuels propriétaires des lieux. À l'époque, c'était beaucoup la communauté catholique qui était hébergée, d'où ces prières en pénalité. Par ailleurs, chaque résident doit donner de son temps aussi pour accomplir de petits services pour le bien commun de la communauté. Cela passe notamment par du jardinage, du gardiennage. Enfin voilà, il faut faire en sorte que tout soit bien tenu. La renommée de la...
Il n'y a rien de gratuit dans la vie.
Non, tout se mérite. La renommée de la résidence Fougueray est telle qu'un musée proposant notamment de visiter un appartement témoin accueille des touristes venus du monde entier. L'entrée de ce musée est fixée à 8 euros par personne, soit l'équivalent de 9 ans de loyer, ce qui voilà, permet de faire vivre le lieu également. Voilà pour peut-être la résidence la moins chère du monde.
Absolument.
Qui ne connaît pas l'inflation.
Non. Ben, merci beaucoup, Louis, pour votre apport à cette émission. C'est toujours agréable. À bientôt.
Avec plaisir.
J'aimerais faire de la bicyclette avec toi du matin jusqu'au soir. Oh, j'aimerais faire de la bicyclette pour sentir mes pieds quitter le sol. Oh, yeah, na na na. Bicyclette avec toi du matin jusqu'au soir. Oh, yeah, na na na. Mes mains en forme de jumelles. Derrière, tout le monde tourne à seul. Faufile-toi dans le trafic, na. Oh, yeah, na na na. N'amène que l'essentiel. Sur le lac, tu n'as aucun stress. Le lac nous appartient, fauna. Oh, yeah, na na. M'amène ailleurs comme Marjo, plus assis haut. Quand sur les cornes de mon guidon, tu es assise, non. J'aimerais faire de la bicyclette avec toi du matin jusqu'au soir. Oh, j'aimerais faire. Avec toi au du matin jusqu'au soir. Oh, et na na na. Bicyclette pour sentir mes pieds quitter le sol. Oh, j'aimerais faire de la bicyclette avec toi.
C'était Qualité Montel. On entendait aussi la voix de Mike Clay qui chantait Bicyclette.
Absolument. Merci d'écouter À bicyclette et merci d'écouter Canal M, la voix de l'inclusion, la radio de Vues et Voix. Ici, je vous parle de Gilles Vigneault, au cœur du pays. Cette année marque les 50 ans de Jean du pays, devenu l'hymne officieux du Québec lors des festivités de la mythique Saint-Jean de 1975 sur la montagne. Et pour l'occasion, Louise Forestier et Yvon Deschamps reviennent sur la genèse de la chanson. Plusieurs artistes revisitent aussi les pièces les plus marquantes de Gilles Vigneault. Michel Rivard, Louis-Jean Cormier, Ariane Moffat, Lou Adrienne Cassidy, qui a vraiment fait sensation franco le week-end qui vient de passer, Kathleen Fortin et Mathieu Sondulot. Le poète de 96 ans, lui, fait un retour émotif dans son Attachquan natal avec Boucar Diouf. Ça va se dérouler dimanche sur les ondes de Télé-Québec à compter de 21h30. À venir, un souvenir de Murray Head, aussi un extrait des Noces de Figaro de Mozart avec la soprano Élisabeth Saint-Gelais pour annoncer la chronique Musique classique en compagnie de Chantal Lavoie.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
That's not what I wanna hear, Joanna. Got a right to know. Say it ain't so, Joe, please. Say it ain't so. I'm sure they're telling us lies, Joe, please. Tell us it ain't so. They told us that our hero, that lady's trump card, he doesn't know how to go on. They're clinging to his charm and determined smile, but the good old days have gone. The image and the empire may be falling apart, the money has gotten scarce. One man's word held the country together, but the truth is getting fierce.
Mariette et sa chanson Say It Ain't So Joe.
Riche, celle de la soprano Elisabeth Saint-Gelais, qu'on entendait dans un extrait des Noces de Figaro de Mozart, suggéré par Chantal Lavoie, qui vient faire son tour à l'occasion pour nous parler musique classique. Bonjour Chantal.
Bonjour Hélène. Alors, ce n'est pas un hasard si on écoute Elisabeth Saint-Gelais. Non, c'est ça. D'ailleurs, elle terminait la saison de l'OSM. On a pu l'entendre lors du dernier concert de l'OSM. Et là, elle sera au Festival de musique de chambre ce samedi. Alors, on va en parler. Mais tu sais, je voulais juste aussi parler du Prix d'Europe qui s'est conclu en fin de semaine. Alors justement, parce qu'Elisabeth Saint-Gelais a remporté le Prix d'Europe en 2023. Alors, et puis c'est quand même une bourse de 50 000 $. À la base, ben, c'est pour les musiciens d'ici, mais on appelle ça le Prix d'Europe parce qu'à la base, c'était pour aller étudier à l'étranger en Europe.
Ah,
mais
bon?
Là, c'est de moins en moins vrai. On peut étudier un peu partout. Mais quand même, une bourse de 50 000 $
qui a été remportée. Qui a remporté la finale cette année?
C'est un pianiste, Samuel Lauzon Schnitka. Alors voilà, un pianiste.
Bravo. Félicitations.
Un jeune pianiste, forcément. Et c'est sous la direction, c'est-à-dire que c'est présidé par Richard Raymond, un pianiste bien connu.
Oui.
Et ça avait lieu au Conservatoire de musique de Montréal, toute cette édition du concours Prix d'Europe qui se terminait en fin de semaine, alors 113e édition.
Et Elisabeth Saint-Gelais, donc Chantal, va participer au Festival de musique
c'est
de chambre de Montréal,
parler.
Qui est en cours, qui célèbre cette année son 30e anniversaire et qui se poursuit jusqu'au 22 juin.
Oui, alors cette soprano Inou, alors d'ailleurs, elle sera là pour célébrer la Journée nationale des peuples autochtones. Alors,
oui, le 21 juin.
Ce samedi 21 juin, donc à la salle Bourgie. Et puis, on aura une violoniste mohawk, Tara Louise Montour, hein, parce que là, il faut bien que je m'éclaire avec ma petite lumière. Là.
Je vais vous la mettre plus proche.
C'est ça. Il y a Andrew Balfour, aussi le compositeur. On va entendre une de ses œuvres. Alors, c'est un compositeur canadien d'origine Cree, lui, qui vit à Winnipeg, très, très prolifique. Qui est un compositeur bien en demande. Là. Alors, on va entendre une de ses œuvres. Et ce qui est intéressant, ce lundi 16 juin, alors 40e anniversaire de la Banque d'instruments de musique du Conseil des arts, c'est présenté à 19h30 à la salle Bourgie. Et ça, c'est gratuit. Il fallait quand même...
Aujourd'hui, là?
Oui, c'est aujourd'hui. Alors, ça se poursuit quand même. Ça se termine le 22 juin, en fin de semaine prochaine. Alors, donc, on a encore quelques concerts. Alors, ce soir, donc, c'est avec James Ennis et Blake Pouliot, deux grands violonistes, mais deux générations différentes, là, quand même. Ben, James Ennis a 50 ans, Blake Pouliot un peu plus jeune. Et puis, pour ce jeudi, il y a le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale qui sera célébré, donc, toujours à la salle Bourgie, 19h30.
Avec un concert.
Ouais, toujours un concert présenté. Et puis, ce samedi, donc, il y aura cette Journée nationale des peuples autochtones. Alors, comme je l'ai dit avec Elisabeth Saint-Gelais, on va terminer aussi avec une œuvre de Dvorak, Sérénade pour cordes. Alors, ce sera une belle soirée. Alors, ce sera à ne pas manquer. J'y serai.
Ah, chanceuse. Donc, c'est à la salle Bourgie.
Oui.
Très belle salle.
Exactement. Absolument. Puis, parce qu'il y avait différents lieux. Enfin, il y a Kirsten Leung qui va jouer les quatre saisons de Vivaldi ce dimanche 22 juin à 14h à la Maison Symphonique.
Ça va être comme le concert de clôture
en quelque sorte.
Parfait. Alors voilà, bien, profitons-en de ce Festival de musique de chambre de Montréal qui bat son plein jusqu'au 22 juin. Et maintenant, vous
puis
nous
quand
parlez...
on dit, juste, je m'arrête deux secondes. Musique de chambre, hein, c'est pour des petits ensembles, on l'aura compris, musique de chambre, c'est plus intime, hein. C'est intéressant, donc ça peut être des quatuors à cordes, piano et voix et tout, et tout, et tout.
On adore. Festival Montréal Baroque, ça se passe aussi à Montréal à compter du 19 juin, donc le 19, c'est jeudi.
Exactement. Qui dit musique baroque, c'est la musique du 17e et 18e siècle. On pense aux compositeurs baroques. Ça peut être autant Jean-Sébastien Bach pour les Allemands, Vivaldi chez les Italiens. Là, je vous donne les... Évidemment, il y en a, mais bon. Purcell pour les Anglais. Puis du Couperin pour les Français. Bon, ouais. Ça vous donne une idée. Alors, évidemment, on peut parler de musique d'orgue, clavecin, luth, enfin, pour les instruments d'époque, bien sûr. Alors, c'est vraiment le festival qui commence ce jeudi.
Qui existe depuis combien de temps, Chantal?
C'est, je pense, la 23e édition.
Ah oui.
Oui, 23e donc, édition. Ouais, et puis 14 concerts et 7 concerts gratuits en
gratuit,
plus. Ouais, 14 concerts plus 7 activités gratuites. Ouais. On va célébrer la musique baroque. Enfin, autant, musique, mais il y aura de la danse parce qu'il y a aussi les jardins chorégraphiques. Hein, ça, c'est une troupe de danse qui se spécialise dans la danse ancienne. Alors, voilà, de l'époque.
On est avec des instruments anciens.
Oui.
Des danses anciennes, des musiques anciennes, mais les musiciens et musiciennes ne sont pas nécessairement
anciens. Non, pas nécessairement, mais ils sont spécialisés dans la musique ancienne. Alors voilà, ils jouent des instruments anciens. Alors voilà, et puis il y a des artistes aussi qui vont venir de l'étranger. Alors on a aussi des artistes espagnols qui seront là. En tout cas, chose certaine, plusieurs concerts, donc dans des lieux historiques ou inusités. Il y aura de l'improvisation, il y aura même les plaisirs de la table seront représentés. Il y a des cafés musicaux, il y a toutes sortes de choses, des conférences.
Un vrai festival.
Ouais, c'est ça.
Mais ça se déroule où exactement?
Mais ça se déroule à Montréal.
Salles.
Alors, oui, c'est ça. C'est-à-dire que ça se déroule. Attends, je vais te le dire tout de suite là. Pour ce qui est des lieux, là, j'ai ça ici, pas loin. Chapelle Notre-Dame de Bon Secours, salle Ville-Marie du Marché Bon Secours, la station de pompage Diouville située dans le musée Pointe à Calière. Alors c'est intéressant. Et tu sais quoi? Ça commence par un défilé. Défilé ce jeudi. Alors on vous invite.
Un défilé de quoi?
Un défilé qui va avoir lieu, c'est un défilé traditionnel, là. Ça commence une parade. Alors, ça commence, c'est à 18h ce jeudi. Alors, c'est la célèbre parade sur la rue Saint-Paul dans le Vieux-Montréal.
Ah, oui.
Alors, vous êtes invité à amener votre voix, vos instruments, percussions, enfin, qu'importe, vous mettez vos plus beaux habits et vous vous joignez à tout le monde pour cette parade qui va se mettre en branle à 18h, donc place Jacques-Cartier. Le trajet, c'est sur la rue Saint-Paul, oui. Et puis, on dit même que vous pouvez télécharger la musique aussi, alors pour apprendre la partition. Alors, si vous êtes
apprendre
forcément...
Apprendre par cœur la partition.
Ben oui, mais vous allez jouer la partition tout au long de cette parade. Alors, voilà, c'est très intéressant. Il y a eu aussi un événement qui s'est déroulé en fin de semaine, puis c'était un beau rassemblement parce qu'on va jouer une pièce aussi dans le cadre de ce festival. Tu sais, ça se déroule sur 4 jours, mais il y a beaucoup de représentations, beaucoup de concerts à différentes heures.
En dehors des dates?
C'est pas juste un concert par jour. Là, c'est plusieurs concerts. Alors, c'est pour ça que, même si ça se déroule sur 4 jours, c'est assez intense. Et on a toujours une thématique, Hélène, à chaque année. Et là, c'est Écho de la Terre. Alors, l'édition 2025 va être consacrée. Ça va rendre hommage à la nature et même une mise en garde des dangers qui guettent notre planète, peux-tu croire? Juste pour te donner une idée. Regarde, ce jeudi 19 juin à 19h, on va avoir un concert qui relate un séisme d'une force inouïe qui frappe le Portugal en 1755 dans la ville de Lisbonne, qui est détruite par l'eau et le feu. Et de son hambour lointain, Télémane va mettre la catastrophe en musique dans son ode au tonnerre. Alors, ça va offrir ainsi à ses concitoyens de l'époque une vivante image de la nature déchaînée, vue à l'époque comme la manifestation de l'implacable puissance du Créateur. Alors, tu sais, c'est très riche, là. C'est très... on sait.
Mais la musique, c'est extraordinaire. Ça évoque plein de choses. On pense à la pastorale de Beethoven, qui, lui, est plus dans la nature paisible.
Oui, tout
mais
à
là,
fait.
Ici, on est dans la fin du monde. Là.
Tous ces concerts-là ont des thématiques, justement, respectent la thématique. Alors, c'est ça. Donc, ça a été fondé, ce Festival Montréal Baroque, par une dame, Suzy Naper, qui est une violoncelliste, mais une gambiste bien connue qui joue de la viole de gambe. De la viole de gambe, dis-je bien. Et puis, écoute, elle a étudié très jeune cet instrument. Et puis, elle a même créé un style aussi d'interprétation, parce qu'il faut quand même... On n'était pas à l'époque, hein? Alors, on a quand même développé aussi une façon de jouer ces instruments-là.
Mm-hmm. Adapté à aujourd'hui.
Bien sûr. Et Suzy Naper, qui c'est aussi le duo des voix humaines avec Mélissande Corriveau. D'ailleurs, elles vont se produire toutes les deux. Et puis, tu sais qu'on a... D'abord, je voulais juste dire, oui, que c'est co-dirigé, la co-direction artistique, c'est Vincent Lauzé et Mathias Maute, deux musiciens extraordinaires, deux flûtistes virtuoses.
Qu'on va entendre d'ailleurs, Vincent Lauzé.
Oui, Vincent Lauzé, on va l'entendre
chronique.
À la fin. Ouais. Alors, très intéressant. Et puis, cette année, le festival rend hommage aussi aux femmes créatrices, interprètes, comme des compositrices. Alors, donc, carte blanche à Suzy Naper, justement, la fondatrice.
Ouais.
Et puis, on a une œuvre espagnole qui sera présentée pour la première fois au Canada, qui met en vedette une distribution entièrement féminine.
Excellente idée,
des musiciennes
espagnoles. Parce
qu'il y a
beaucoup de compositrices qui sont restées dans l'ombre pendant des siècles.
Tout à fait. Alors, et puis, il y a cette version de Voyage d'hiver de Schubert avec la soprano Myriam Leblanc. Il y a un concert autour de l'œuvre de Fanny Mendelssohn, qui était la sœur de Félix Mendelssohn.
Alors, qu'on connaît beaucoup moins que son frère.
Ben oui, exactement. Et puis, c'est ça, les femmes devaient être dans l'ombre, finalement.
Oui,
elles avaient un frère célèbre, là, ben oublie ça, hein. On s'entend. Et puis, c'est joué par des musiciennes d'ici, de chez nous. Et puis, alors donc, c'est plein de projets intéressants. Tu sais, il y a le concert Les Grands Espaces qui sera présenté aussi ce samedi 21 juin à 14h, auquel seront invités tous les participants de ce grand rassemblement dont je t'ai parlé samedi dernier. On a tout réuni des gens autour de l'œuvre de Les Grands Espaces de Katia McDissi Warren, qui est une compositrice de chez nous. Alors voilà, et puis donc, il va y avoir un chœur d'enfants. Alors tous ces gens-là se sont rassemblés pour pratiquer samedi dernier cette œuvre-là. C'était comme la générale, mais il y a une forme d'improvisation là-dedans parce qu'on revisite la pièce à chaque fois et puis bon, ça crée une autre...
Donc on va pouvoir l'entendre le 21 juin.
Le 21 juin, ce samedi, donc c'est à 14h. Alors ben là, vous aurez tous les détails sur le site Internet, bien sûr, ça fait beaucoup de choses à vous dire. Donc, plein de belles choses. Alors, pour des musiciens en herbe, évidemment, il y a des classes de maîtres. Il y avait plein d'activités. Et puis, bien sûr, il y a ce concert aussi, classique inclusif. C'est en fait une entreprise de l'ensemble Caprice que dirige Mathias Maute, le co-directeur artistique. Alors, ça permet aux musiciens... ça ouvre l'espace artistique aux musiciens réfugiés et immigrés. Alors, on appelle ça classique inclusif. Alors, ça réunit des œuvres baroques occidentales, de la musique traditionnelle arabe aussi, ainsi que des poèmes et récits sur la nature, le déracinement, l'identité et le sentiment d'appartenance. Alors ça, c'est présenté ce jeudi 19 juin à 21h. Alors évidemment, je vous donne ça comme ça pêle-mêle parce
que c'est parfait, ça.
Il y a plein de concerts différentes heures, là, comme je
dis. S'adresse à tout le monde finalement.
Mais tout à fait. Alors
c'est à n'importe quel public, ce que je veux dire.
Puis,
c'est pas élitiste.
Non, puis il y a un concert, tiens, pour les il faut que je te dise ça. Concert pour les enfants. Attends, il y avait quelque chose de cute. Ah oui, samedi à 11h, tiens, pour la famille. Mouches, abeilles, papillons, grillons, puces, le fascinant monde des insectes visités par deux interprètes au sommet de leur art.
Hein?
Alors oui, de la musique qui stridule, bourdonne, vole, pince et pique. Alors oui, c'est des œuvres de Rameau, Couperin, Clérambeau. Alors un beau programme avec la soprano que j'adore, Andréane Brisson-Paquin, s'est présentée donc à 11h, 21 juin.
Ah, belle sortie en famille.
Oui, alors tu vois, il y en a pour tous les goûts.
Oui,
alors, c'est
et
vraiment...
tous les âges.
Oui, et puis en plus, ben, tu sais, on parlait cette pièce, Les Grands Espaces. Il y aura du chant de gorge aussi lors de ce concert du 21 juin à 14h. Alors voilà.
Et puis Chantal, on parlait de... Ben, je voulais juste donner l'adresse courriel, l'adresse du site Internet du festival, c'est montrealbaroque.com. Et puis je regardais, il y a même un guide du festivalier. Il y a des billets qu'on doit payer, mais mais il y a d'autres billets qui sont gratuits, hein, comme vous le disiez
tantôt.
Tout
à fait. Bien, évidemment, pour la parade, on s'entend. Vous pouvez vous joindre à la parade, même si vous ne chantez pas, même si vous ne jouez pas d'un instrument. Ça va être festif.
Participer à cette fête musicale. Tout à fait. Et on va se laisser donc avec une pièce de Vincent Lauzé.
Ça, c'est cute. Allez sur le site Internet parce que vous allez retrouver cette pièce-là, mais vous allez le voir jouer en même temps. Alors, ça vaut la peine. Ça dure à peu près 3 minutes. Et en fait, c'est vraiment une histoire musicale, 2000 ans d'histoire en un coup de vent, parce que ça dure 3 minutes, évidemment. Oh. Puis sur la vidéo, c'est-à-dire, vous allez avoir les époques qui correspondent à la pièce qui va être jouée, bien, c'est-à-dire l'extrait, parce que ça s'enchaîne, ces pièces-là.
Mais là, quand on va l'écouter, est-ce qu'on va le sentir?
Oui, vous allez sentir les époques.
C'est 2000 ans de musique.
Oui, c'est ça. Mais si vous allez sur la vidéo, vous allez avoir, on vous l'indique, que ce soit en 1300 ou que ce soit en 1791. Okay. On l'indique sur la vidéo. Mais là, vous allez le sentir quand même. Vous allez sentir les époques à travers ce
tournoi. On fait l'expérience et là-dessus, je vous dis un grand merci, Chantal.
À la
prochaine.
Merci, Hélène.
C'est agréable, ça, une histoire de la musique en 3 minutes, 3 minutes 27 pour être plus précise, par le flûtiste Vincent Lauzé dont nous parlait Chantal Lavoie à sa chronique Musique classique. Presque tous les indicateurs des objectifs de développement durable pour les personnes handicapées accusent un retard. C'est sur le site des Nations Unies, publié le 11 juin, ce communiqué, la 18e session de la conférence des États parties à la Convention relative aux droits des personnes handicapées qui se déroule du 10 10 au 12 juin est axé sur la sensibilisation du public aux droits et à la contribution des personnes handicapées au développement social. Il aurait fallu que je dise qui s'est déroulé du 10 au 12 juin puisqu'on est le 16 aujourd'hui. La présidente du Comité des droits des personnes handicapées, Kim Mi-Yeon, a souligné l'importance de la Convention relative aux droits des personnes handicapées qui existe depuis maintenant 20 ans, malgré un contexte de défis mondiaux croissants. Malgré la crise de liquidité que traverse actuellement l'ONU, la dynamique mondiale en faveur du renforcement des droits persiste, a-t-elle signalé, pointant le Forum international sur l'emploi des personnes handicapées en Corée. Le programme de développement social vise à poursuivre la dynamique en faveur des droits des personnes handicapées et du développement social avant deux événements majeurs à venir, le deuxième sommet mondial pour le développement social en novembre et la quatrième conférence internationale sur le financement du développement qui se tiendra à la fin du mois dans la ville espagnole de Séville. La conférence de trois jours inclut des discours de dirigeants des Nations unies, de la société civile, un débat public sur les droits et les contributions des personnes handicapées et trois tables rondes. Celles-ci portent sur le financement ou ont porté sur le financement du développement inclusif des personnes handicapées, l'exploitation de l'intelligence artificielle pour l'inclusion et la promotion des droits des personnes en situation de handicap autochtones. Des représentants des gouvernements, de la société, des agences des Nations unies et des experts devaient également partager leurs stratégies et leurs meilleures pratiques tout au long de l'événement qui s'est déroulé donc tout récemment du 10 au 12 juin. Et maintenant, la ville de Terrebonne réaffirme son engagement envers l'inclusion de la diversité sexuelle et la pluralité des genres en adoptant lors de la séance du conseil municipal qui s'est déroulée le 10 juin son premier plan d'action. Il s'agit d'une première initiative du genre à l'échelle du Québec. Ce plan 2025-2028 présente des mesures concrètes pour lutter contre la discrimination et favoriser le vivre ensemble, tant au sein de l'administration municipale que dans les services offerts à la population. Ce document stratégique s'inscrit dans le premier plan d'action de développement social de la ville adopté en 2023. Le plan d'action s'articule autour des objectifs suivants: reconnaissance et valorisation de la diversité sexuelle et la pluralité des genres, respect et exercice des droits, appui du milieu communautaire et des réseaux aux personnes issues de la diversité sexuelle et la pluralité des genres et accès aux services publics et adaptation de ceux-ci. Pour assurer la mise en œuvre de ces objectifs, la ville sera accompagnée par le NEO, qui est un organisme communautaire régional établi à Terrebonne, œuvrant depuis plus de 25 ans à promouvoir le bien-être des personnes issues de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres. Une première action a d'ailleurs été posée le 10 juin dernier, alors que la ville a signé la charte d'engagement élaborée par le NEO. Terrebonne s'est ainsi engagée à intégrer des pratiques inclusives dans ses services à sa population et auprès des membres de son personnel. Signe de sa détermination, la charte sera affichée dans les bâtiments municipaux afin que le public puisse en prendre connaissance. Rappelons qu'en 2022, Terrebonne est devenue la première ville de la Naudière à obtenir par le NEO la certification municipalier. Alors, c'est dans un communiqué que j'ai trouvé cette nouvelle. Terrebonne adopte son plan d'action pour l'inclusion de la diversité sexuelle et la pluralité des genres et ça a été publié le 11 juin sur terrebonne.ca. Ça complète l'émission d'aujourd'hui. Un grand merci d'avoir été à l'écoute et j'espère que vous serez là demain à compter de 9h30. Ici Hélène Denis, passez une belle journée. Merci Mathieu Tessier pour tout. À demain.